Alors on est au début de 78, c'est ça? On avait vu Émir.
Oui.
On a vu le numéro 1, je crois.
Non.
On ne les a pas fait du tout.
On a pas.
Bien, d'accord. Bon, alors, chapitre 78 et, donc page, je ne sais pas combien, page 177, et en araméen, c'est Tavshin Samarvav, en bas. Donc, c'est l'ange d'Esav, donc l'ange contre lequel Yaakov a lutté. Donc on a cette lutte entre Yaakov et l'ange, dont on sait maintenant que c'est l'ange d'Esav. À ce moment-là, l'ange dit... Merci. Elle a appelé. Merci. Vayomer shalchini ki ala shachar. L'ange dit à Yaakov, renvoie-moi. Envoie-moi, littéralement, qui Allah Hashacha, parce que l'aube est venue. Et littéralement, ça monte, le soleil, il est encore sous l'horizon, mais on voit que ça s'éclaircit. C'est intéressant parce qu'il lui dit Shalcheini. Shalcheini, ça veut dire en réalité envoie-moi. Ça ne veut pas dire laisse-moi partir. Shalcheini, envoie-moi. Comme si les anges, c'est des envoyés. Ils sont a priori envoyés. Et s'il dit à Yaakov, il lui dit envoie-moi, c'est comme si. Maintenant, c'était Yaakov qui l'envoyait. Vous voyez, c'est un peu étonnant comme forme verbale. Ils ont traduit « Laisse-moi partir, car voici l'aube. » Mais en fait, c'est pas marqué « Laisse-moi partir ». C'est bien le sens qu'on donne d'ordinaire. Ils sont en train de lutter, et Yaakov a le dessus, et l'ange lui dit « Maintenant, laisse-moi partir. » Je devais lutter contre toi pendant la nuit. Maintenant, l'aube est venue. Laisse-moi partir. Mais Shalcheini, ça ne veut pas vraiment dire ça. Mais pour l'instant, le Midrash n'entre pas là-dedans. Et juste, il faut avoir peut-être présent à l'esprit qu'en réalité, il y a là comme une inversion. Jusqu'à présent, les anges, ce sont les envoyés d'Hachem. Hachem envoie des anges. C'est-à-dire, il agit par une des façons d'agir, c'est par l'intermédiaire des anges. Et maintenant, curieusement, cet ange-là, maintenant, il demande à être envoyé comme si l'envoyeur, c'était Yaakov. Alors qu'a priori, l'envoyeur, c'est toujours Hachem. C'est quand il dit « renvoie-moi », Ça veut vraiment dire laisse-moi, ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire qui s'inscrit encore dans la trajectoire, dans la tâche qu'Hachem m'avait confiée, qui était de lutter avec toi pendant la nuit, et quand l'aube serait venue, de venir faire mon rapport, en quelque sorte, de dire de venir vers Hachem, si on peut parler comme ça, et dire ben voilà, ça s'est déroulé, j'ai gagné ou il a gagné.
principe,
Oui. Seulement, là, on peut comprendre que Yaakov était à un niveau où il avait... Dans la Torah, les hommes sont supérieurs aux anges. Les anges sont statiques et les hommes sont dans une dynamique. C'est le passage que le Navi dit au nom d'Hachem, Natatilcha mehalchim ben haomdim haele. Je t'ai donné des chemins, en fait. Mehalchim, c'est le mouvement d'être olech, d'aller. Ben, parmi haomdim, ceux qui sont là, se tiennent debout. Et ceux qui se tiennent debout, qui sont fixes et déterminés, si vous voulez, ce sont les anges. Ils ne sont que la volonté d'Hachem. Alors que les hommes, Hachem dit, je t'ai donné des mehalchim, je te donne la possibilité de bouger, je te donne des conseils, comment bouger. Mais finalement, tu es libre. Finalement, c'est toi qui décides d'aller ou de ne pas aller. Les Bnei Israël avaient à un moment donné, ils étaient dans une situation où ils étaient très déterminés, c'est quand ils sont gouvernés par les nuées de gloire dans le désert, pendant les 40 ans du désert, où ils se mettaient en marche quand les nuées de gloire avançaient, et ils s'arrêtaient quand la nuée s'arrêtait. À ce moment-là, ils n'étaient même pas maîtres de leur déplacement. Mais en temps normal, en situation normale, on est maître d'une certaine liberté. La liberté n'est pas complète, mais... Allô ? Oui, bonsoir. La liberté n'est pas complète. Bon, il faut encore discuter quel degré de liberté ont les hommes dans cette affaire, mais qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui avec ce qu'on sait, des neurosciences comme ça, quel degré de liberté on a, qu'est-ce que c'est la liberté qui nous reste, mais quelle qu'elle soit, c'est ça qu'on appelle la liberté. Mais les anges n'ont pas de liberté. Mais là, tout à coup, il a l'air de changer de maître, en quelque sorte. Son maître, jusqu'à la bataille contre Yaakov, c'est Hachem. Et là, il dit, Shalcheini, c'est toi qui me renvoies maintenant. Alors, c'est vrai que quand il dit, Kiala Shachar, qu'est-ce que ça a à voir? Si c'est Yaakov qui décide, il s'arrêtera quand il voudra. Il le renverra quand il voudra. Donc là, il fait référence, je suis quand même dans un processus qui m'a été ordonné par Hachem. Et maintenant, c'est pour ça que le Shalcheini est un peu ambigu. Bon, maintenant, on ne va pas faire chier là-dessus. On va voir ce que dit le Midrash. Ktiv, Chadashim, Lavkarim, Rabba Emunatecha. Alors, le Midrash, il va essayer de clarifier notre verset. Ce verset, donc, Bayomer Shalcheini qui est Allah Hachachar, renvoie-moi parce que Allah Hachachar. Un instant. Yaakov? Oui. Attends, je ne sais pas si j'ai perdu Kahn maintenant. Herschel, vous êtes là? Kahn, vous êtes là? Je suis là. Raccroche, s'il te plaît, Yaakov. J'appelle tout le monde. Oui. Qui est là? Tout dans le même cinéma. Kahn, vous êtes là? Branchez votre micro, s'il vous plaît. Kahn, vous êtes là? Yaakov, tu es là? Non. On ferme. Ah, voilà. Ça va lancer quand même. Vous êtes là tous les deux? Kahn, vous êtes là, je vois. Yaakov, tu es là aussi? Complet. Vous êtes là? Bon, on verra. Je parce qu'ils protestent. Vous êtes là tous deux? Quand vous êtes là maintenant, vous êtes tout seul? Khan, comprends rien à ce machin. Khan. Oui.
Je suis là, il y a clé.
Khan, vous êtes là et Bellamy, tu es là aussi?
Oui, mais j'ai été coupé.
Oui, parce que c'est Bellamy qui a fait intrusion.
Voilà, voilà.
Maintenant, vous êtes là tous les deux. Alors maintenant, taisez-vous.
Bien.
Donc, Khalashim, Lavkarim, Rabba et Munatecha. Alors, comme toujours, n'est-ce pas, le Midrash prend un verset, le verset qu'il veut étudier, et on essaie de clarifier les choses en le confrontant avec d'autres versets. Là, en l'occurrence, on le confronte avec un passouk dans Echa, qui vient des lamentations de ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie. Et le passouk en question dit. Chadashim, lavkarim, nouveau pour les matins, Rabba emunatecha, elle est grande, ta emuna, c'est-à-dire la confiance qu'on peut te faire. Emuna, c'est la confiance. Là. Donc, on confronte, qu'est-ce que fait Rabbi Shimon, Rabba avec ce verset, Al shi'ata mechadchenu bechol boker ou boker, אנו יודעים שאמונתך רבה להחיות לנו את המתים. Du fait que tu nous renouvelles littéralement chaque matin, nous savons que la confiance qu'on peut te faire est grande. Dans quel domaine? La chayot la loi est ametim, pour triat ametim pour la résurrection. Résurrection des morts.
C'est pareil, la traduction, ils n'ont pas la même version, hein. C'est un
verset. Oui, bon, je ne sais pas, ils avaient une autre version dans la traduction. C'est pas... Alors, dans la traduction, vous prenez Rav Alexandrie au lieu de Rav Shimon Barabba. Au lieu de Rav Shimon Barabba, il y a une version dans. Je ne sais pas quel texte ils avaient, eux, dans le traducteur. Donc vous lisez dans la traduction ce qui est présenté comme étant Rav Alexandrie. Bien. Alors qu'est-ce qu'il veut dire là? Il explique ce verset. Vous savez, dans le texte en araméen, le commentaire qui s'appelle Chidushé Arachash, celui qui est tout en bas, il dit que, il cite Rabbi Shimon Barabba et Rabbi Alexandrie, il dit Bemidrash Echa Shmota Moraim Mukhlafim Mideacha. Dans le Midrash d'Echa qui correspond à ce verset-là, il y a effectivement cette inversion des Amoraïm. Rabbi Alexandrie est présenté comme celui qui dit ce que nous avons lu ici au nom de Rabbi Shimon Barabba. Mais ça n'a aucune importance. Bien, ben alors nous on va quand même suivre ce texte-là. Puisque tu nous renouvelles chaque matin. Alors nous savons qu'on peut te faire confiance en ce qui concerne la triatamétie. Donc je vous ai déjà rapporté. Bonsoir. En fait, cette histoire de Triatametim, il n'y a pas beaucoup, c'est pas écrit explicitement dans la Torah, Triatametim. On apprend qu'il y a Triatametim, vous vous souvenez de ceux qui ont fait Maseret Sanhedrin, qu'on apprend Triatametim, une des lectures de Triatametim, c'est le fait que c'est marqué Az Yashir Moshe. Dans la paracha de Béchalach, dans le cantique de la mer, c'est marqué alors Yashir Moshe. Moshe chantera. Alors qu'en vérité, le texte aurait dû porter alors Moshe a chanté. Puisqu'il a chanté pour remercier Hachem, c'est un cantique de remerciement, parce qu'ils ont été sauvés au passage de la mer Rouge. Or, le texte est au futur. Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera. Yashir, c'est un futur. De là, on dit, c'est un des points d'appui pour dire que ça, c'est l'allusion à Triatametim. Qu'un jour, Moshe chantera. Quand est-ce qu'il chantera? À Triatametim. C'est une référence ici. Pourquoi ça a à voir avec le cantique de la mer, etc. Bon, ça, c'est pas notre sujet immédiatement. Pourquoi est-ce que au moment du cantique qui a eu lieu, au moment où ils ont été sauvés, lorsqu'ils ont passé la mer, pourquoi est-ce que c'est à cet endroit-là que la Torah a choisi de faire parler de Triatametim? Certains disent qu'il y a encore une autre allusion qui est le Az. Az, ça s'écrit Alef Zayn. Et Alef Zayn, en gématria, ça fait 8. Alef, c'est 1, Zayn, c'est 8. Et 8, comme le Maharal de Prague explique, c'est toujours, c'est le Zman de... C'est le futur, quoi, si vous voulez, c'est le hors du temps. 7, ça correspond au 7 jours de la semaine, à un certain rythme. Et 8, c'est comme pour la Mila, le 8e jour de la Mila, le 8e jour de Shmini Atzeret, etc. Tout ça, hein, c'est toujours des références. C'est comme ça que le Maharal enseigne. Ce sont toujours des références à un au-delà du temps. Alors, en réalité, cette référence au fait qu'on se réveille tous les matins, et c'est présenté comme « Atam Mechadshenu ». Mechadesh, ça veut dire « renouveler ». C'est pas que le verset ici présente le réveil du matin comme... on peut presque dire, justement pas comme un réveil. Si j'entends dans « réveil », c'est « re-éveiller », c'est éveillé à nouveau, mais comme dans un processus continu, mais vraiment comme... Mais au contraire, ce verset-là, il a l'air de présenter les choses comme quelque chose de complètement discontinu. C'est un terme khadesh, c'est un renouveau. C'est-à-dire, c'est nouveau. Bon, c'est nouveau, ça veut dire... c'est en rupture avec le passé. C'est-à-dire, c'est une nouvelle journée qui s'ouvre devant nous, le matin, et comme on dit, la chaîne qui renouvelle en permanence l'œuvre de la création, ici il y a aussi un renouvellement de la vie qui nous est donnée. Et donc ce renouvellement-là, puisqu'il a lieu, quelque part, ça fortifie la confiance qu'on peut faire au renouvellement plus radical qu'il y aura au moment de Triatametim. Je vous ai dit, nous, en fait, nous faisons le travail. C'est ce fameux, le matin, quand on dit Elokai Neshama Shenata Tabi, etc., on s'adresse à Hachem et on dit, on s'adresse à Elokai, littéralement ça veut dire mon Dieu. Neshama Shenata Tabi. La neshama que tu m'as donnée, cette neshama, tu me l'avais donnée, je te l'ai confiée hier en me couchant, et maintenant tu me la redonnes, etc. Ça veut dire que nous disons ce renouvellement radical. C'est une neshama, je te l'ai rendue, c'est le processus, n'est-ce pas? Rendre la neshama, c'est comme si, voilà, c'est comme si on était mort, d'une certaine façon. Et tu nous redonnes une neshama. C'est vraiment le processus de Triat HaMetim. Et ce processus de Triat HaMetim, c'est nous qui décidons, d'une certaine façon, de voir le réveil de chaque matin sous cet angle-là. Nous décidons de voir, de vivre la chose de cette façon-là. Nous allons lui donner cette dimension-là. On pourrait faire comme tout le monde, voilà, on s'est réveillé. On se réveille, on se réveille, on se réveille, puis un jour on ne se réveille pas éventuellement, mais tant qu'on s'est réveillé, ben c'est l'ordre du monde. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Mais justement, nous on en fait un plat. Et on en fait quelque chose, on dit, voilà, ce qui se passe là, moi je lui donne cette dimension-là. Donc je me construis ma Triat HaMetim, c'est-à-dire, je décide de vivre dans une vie où Hachem m'a donné des indications. Il m'aide à croire ce qui est incroyable autrement. Tu vois, parce que qu'est-ce que veut dire Triat HaMetim? Vous savez, vous, ce que c'est résurrection des morts? On ne sait pas ce que ça peut vouloir dire. On n'a aucune idée. Il n'y a jamais eu de résurrection des morts. On ne connaît pas. Si on est mort, on est mort. Non, la Torah, elle vient, elle te dit, il y aura, fait partie des principes fondamentaux de notre Emouna, qu'il y aura Triat HaMetim. Alors, chaque fois qu'Hachem nous demande d'être ma'amin dans quelque chose, d'avoir confiance, où il nous donne, il nous indique comment construire cette confiance. Comme toujours, la confiance, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. La confiance, c'est toujours quelque chose qu'il faut construire. Peut-être qu'il y a eu un moment où la confiance aurait pu être presque vue comme tombant du ciel. Ça, c'est quand Hachem a parlé à Abraham. Quand il lui a fait des promesses, il y a deux. Alors, et qu'Abraham a dit, mais comment saurais-je qu'effectivement ces promesses vont se réaliser? Donne-moi un signe, en fait. Donne-moi un signe, ça veut dire... Donne-moi, qu'est-ce que c'était le signe qu'il demandait? Quelque chose qui fasse que, voilà, c'est comme si je l'ai déjà. Même si c'est symbolique, etc. Donne-le-moi. Donne-moi quelque chose. On dirait aujourd'hui, donne-moi un acte de propriété de la terre d'Israël. Hachem lui promet que tu auras la terre d'Israël. Il dit, d'accord, c'est une promesse, mais peut-être que ma descendance conduira mal, etc. Que cette promesse, bien sûr, elle va se réaliser, mais dans... C'est quasiment comme si elle ne se réalisait pas. Alors Hachem lui dit, tu ne me fais pas confiance directement du seul fait que je te parle. Là, en l'occurrence, puisqu'Hachem lui parle, il aurait dû faire confiance. Du seul fait qu'Hachem s'adresse à lui. Mais, visiblement, il ne l'a pas fait. Alors Hachem dit, il y a deux Atéda, et à ce moment-là, il y a toute la promesse de la descente, enfin du fait qu'on va être en esclavage en Égypte, et qu'Hachem nous en sortira, et donc il nous prendra totalement en charge, et à ce moment-là, on fondera cette prise en charge, la fondation de notre Emouna, de notre confiance en Hachem. Exactement comme un enfant fonde sa confiance en sa mère, du fait qu'elle l'a portée pendant 9 mois. Pourquoi il a confiance? Il a une confiance initiale parce qu'il y a eu quelque chose avant sa naissance qui justifie confiance. Et la confiance, elle va se construire au fur et à mesure. Bon, et sa mère va disparaître, elle va revenir, le sein maternel va s'éloigner, il va revenir, etc. L'enfant va apprendre à faire confiance de plus en plus lentement. Quand il est auprès de lui, il n'y a pas de confiance à avoir, elle est là, il la sent. Mais après, elle va s'éloigner, il va probablement paniquer, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment c'était, je ne me rappelle plus si on panique ou comment ça se passe. Et ensuite, ça revient, donc on construit petit à petit, et l'éloignement, il vient de plus en plus grand, et au fur et à mesure, on construit confiance. Mais cette confiance, elle peut être détruite. Je vous ai déjà raconté que, il y a quelques années, on avait fait, quand j'étais à Nice, on avait fait une conférence. Parmi les intervenants, il y avait le professeur Papernick, Alva Shalom, qui avait expliqué que, auparavant, quand on devait hospitaliser un nouveau-né, on hospitalisait l'enfant tout seul. La mère, elle ne pouvait pas avoir son enfant, si ça se trouve, elle le voyait à travers une vitre. Ça fait des dégâts, parce que les enfants étaient complètement déboussolés, ils n'avaient plus confiance en leur mère. Et il nous a dit, on a compris, ça fait longtemps, il parlait de ça, et il disait, bon, ça fait 5 ans, comme ça, que maintenant, quand on hospitalise un nourrisson, on hospitalise la mère avec, pour que la mère soit auprès de lui, pour qu'il ne perde pas la confiance qu'il s'est construite, parce que les enfants qui sont déboussolés, qui ont perdu confiance en leurs parents, ça peut être gravissime. Il y a des gens qui mettent toute une vie à reconstruire ça, à se reconstruire face à ça, suite à ça. Et donc la confiance, ça se construit, et la confiance du clan Israël, elle se construit. Hachem a dit à Abraham, bon, puisque tu ne me fais pas confiance du seul fait que je te parle, alors on va construire la confiance selon le mode de construction de la confiance qui existe dans le monde, à savoir prise en charge de quelqu'un qui ne peut pas se prendre en charge du tout. Donc on va faire dégringoler les Bnei Israël jusqu'au, comment on dit, 49e degré d'impureté en Égypte, et à ce moment-là, Hachem va les sortir de là, et la confiance va se construire. Ensuite, ils vont vivre des 40 ans dans cette bulle, d'accord, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Eretz Israël, ils vont vivre dans une bulle. Une bulle dans laquelle ils n'auront à se soucier de rien. Ils sont pris en charge, c'est de nouveau quasiment le ventre maternel. Et la soukha représente ce ventre maternel. La mitzvah de la soukha, c'est de vivre dans la soukha. Vivre ouvert, à toit ouvert, pratiquement ouvert, vers le ciel. Donc nous travaillons, nous faisons ce travail-là. Le pasouk dit, ben, c'est à partir de ce verset de Chadashim Lavkarim, de dire que le boker, le matin, c'est Chadash, c'est nouveau. Ça n'est pas, c'est nouveau, c'est pas la continuité. La question qu'on peut poser, c'est, mais en quoi est-ce que ça éclaire notre verset ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette lecture de que Rabbi Shimon bar Abba ou Alexandre fait de ce passouk et notre verset ? Là, ce qui est commun, c'est qu'il y a l'aube qui pointe et il y a le matin. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de façon élémentaire? C'est que l'ange ici fait référence à ce que une fois, il fait référence donc à l'aube, et avec ce verset Rav Shimon dit, mais l'aube, ça n'est pas, c'est quelque chose de radicalement nouveau plutôt. C'est Chadash, complètement Chadash. C'est un nouveau moment. C'est un nouveau moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis ce moment-là, on est dans une autre phase de l'histoire. C'est une nouvelle histoire. C'est une histoire qui est construite de telle sorte que, enfin, on en connaît la fin. On connaît la fin de cette histoire. La fin de l'histoire, c'est que Yaakov a gagné contre Esav. Il dit, tu peux me renvoyer moi maintenant. L'aube est montée, c'est fini. le problème de la confrontation entre Yaakov et Esav est terminé. Il a duré le temps de la nuit, c'est-à-dire Olam Hazé, ce monde-ci, etc. Et maintenant, on est maintenant le matin. C'est un matin, c'est-à-dire on est dans un autre temps. C'est intéressant, c'est-à-dire que on est en train de dire qu'on est déjà dans un autre temps. Parce que on est dans un temps dont on connaît la fin. C'est un laps de temps dont on connaît la fin. On sait comment ça terminera. Et c'est pour ça, et ce problème-là de savoir comment ça termine, eh bien, c'est au fond ce qui nous permet, ça fortifie notre émouna.
Mais Yaakov n'a pas révélé le quête, ça c'est...
Non, ça c'est autre chose, il pouvait pas, lui il le savait. Il n'a pas pu leur dire. Il n'a pas pu leur dire parce que... Bon, ça je ne sais pas... C'est le Rashi sur... le premier Rashi dans la paracha de cette semaine. J'avais expliqué que... Au Shir de Chumash, hier j'ai expliqué que... Vous êtes excusé de ne pas y avoir été, c'était un shiur de femme. Mais j'avais essayé d'expliquer que Rashi dit sur la parasha de cette semaine, il dit que, vous savez, la parasha de Vayechi, elle est stouma. C'est-à-dire, dans la Torah, vous avez, il n'y a pas de point, de virgule, etc. Mais il y a des espaces. Il y a des paragraphes, si vous voulez. Et puis, il y a des moments où, tout en n'allant pas à la ligne, c'est donc pas un paragraphe au sens habituel du terme, mais il y a un espace de, c'est quoi, 9 lettres, je crois, qui est une espèce de respiration du texte. C'est comme un point. C'est un point. Et... À la fin de la paracha, normalement, toutes les parchiotes, on va à la ligne. Puis même, il y a un espace qui sépare les parchiotes les unes des autres. Bien qu'on ait vu qu'en réalité, c'est une convention de... c'est Minaga Pashut, comme on a vu dans la halakha, de lire la Torah sur une année. Donc le découpage en question, c'est un découpage ad hoc pour une lecture sur une année. Le découpage... qui, d'après l'autre minag où on lirait sur 3 ans, ce serait évidemment un autre découpage. Mais bon, ça c'est notre découpage à nous, le découpage que nous avons. Mais la paracha entre Vaïgash, la paracha de la semaine dernière, et Vaïchi, il n'y a aucune, y a pas de blanc, et on ne va pas à la ligne. C'est, le texte est continu. Ça s'appelle que la paracha, elle est stouma, elle est fermée. Il n'y a pas de respiration, c'est comme si on a coupé le souffle. Donc, maintenant, cette écriture, cette façon d'écrire le texte reflète le contenu de la paracha. Le contenu de cette paracha, c'est, de ce début de la paracha, c'est que Yaakov meurt, et à ce moment-là, commence le galout, commence l'exil. Et on dit... Pourquoi est-ce que dans la paracha est fermée? Pourquoi il n'y a pas de respiration, si on veut? Parce que les Israël ont eu le souffle coupé par ce début d'exil, début d'esclavage. Mais évidemment, il y a un problème. Parce qu'on sait bien que l'esclavage n'a pas commencé à ce moment-là. L'esclavage n'a commencé qu'après la mort de tous les fils de Yaakov. Bon, ils sont encore tous vivants à ce moment-là. Donc l'esclavage n'a pas commencé avec la mort de Yaakov. Alors pourquoi c'est à ce moment-là que le texte nous dit qu'ils sont, cette fermeture, il n'y a plus de souffle, ça s'appelle de l'angoisse. C'est ça l'angoisse. Donc pourquoi ils sont angoissés maintenant? Mon maître Rav Volbe, il disait que l'exil concret avec esclavage et tout a commencé effectivement plus tard. Mais avec la disparition de Yaakov, ils ont senti le poids de la civilisation égyptienne dans laquelle ils étaient. C'est-à-dire que tant que Yaakov était là, il portait tout le monde. Il portait tout le monde et ils étaient comme s'ils étaient encore en Eretz Israël. Et quand Yaakov a disparu, ils ont senti dans quel touma, dans quelle impureté ils étaient. Alors, ils ne sont pas à ce moment-là devenus, on ne parle pas d'assimilation, etc., pas encore. Mais, quelque part, ils étaient encore sensibles à ce qui arrivait, mais on peut très bien être sensible à... On se sent dégringolé, en quelque sorte, et on ne voit pas comment on pourrait échapper. Il y a une inertie qui nous prend. Et ça fait penser à ce que Menaché, le roi Menaché, a dit à Ravashi quand on a discuté de l'Agmara, dont on a souvent déjà parlé, parce que l'Agmara a discuté pour savoir... Vous vous souvenez, tout le monde connaît la Mishnah qui dit « Kol Israël yishlaim chalek le'olam haba ». Tout Israël a une part au monde à venir. Mais tout le monde ne sait pas qu'il y a une suite à cette Mishnah, qui est « Ve'elu she'en la'em shiur ». Et voici la liste de ceux qui n'ont pas par Kol Israël, sauf qu'il y a des exceptions. Et dans les exceptions, il y a des simples, il y a des personnages, il y a des rois, il y a des groupes de gens. Et quand on a discuté de cette question-là dans la Gemara, dans l'académie de Babel, ils ont discuté, et puis quand ils s'étaient... Ils sont arrivés au moment où ils devaient discuter des rois, quels sont les rois qui auront ou qui n'auront pas part au monde à venir. Alors, il y a un des maîtres qui a dit, ouais, demain on s'occupera des petits copains. C'est-à-dire des rois idolâtres. Et tout le monde se rappelle ? Non ? Alors, la nuit, le roi Menaché, qui est un très grand roi idolâtre, est venu en rêve chez ce rave et il lui a dit, dis-moi, qui est-ce qui te permet de me traiter de ton petit copain? Qui tu es pour me parler de moi de cette manière-là? Bon, il était un peu gêné. Et il lui a dit, est-ce que tu sais seulement où on coupe le pain quand on fait motzi? On coupe le pain, on fait la bracha sur le pain. Tu sais comment on coupe le pain? Il a dit, non seulement je ne sais pas, mais je ne savais même pas qu'il y avait un endroit où il fallait couper. Et il a dit quoi? Tu ne sais même pas comment on coupe du pain, chose aussi élémentaire, et tu te permets de me traiter de ton petit copain? Mais qui tu es? Il a compris qu'il avait mis les pieds là où il ne fallait pas. Et il a dit, écoute, il a dit, enseigne-moi, et demain au Beit HaMidrash, je le dirai en ton nom, je répercuterai cet enseignement en ton nom. Alors il lui a expliqué que c'est, on commence toujours par couper à l'endroit qui a cuit le premier, à partir du pain qui a, alors évidemment ça dépend si vous avez un four à chaleur tournante ou bien si vous avez collé la pâte sur votre four, vous avez un four, comment ça s'appelle? Un four en demi-sphère, et on colle sur la pâte, alors qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui cuit d'abord? Qu'est-ce qui prend d'abord? En tout cas, il lui a dit, c'est ça, c'est là qu'il faut couper. Et c'est aussi aujourd'hui comme ça aussi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours où ça a commencé, où ça commence. Il faut regarder, quoi. Il faut un jour laisser votre femme qu'elle vous permette de regarder, d'abîmer éventuellement la cuisson des chalotes pour voir exactement comment, où ça commence à cuire d'abord. Dessous, dessus. Ça dépend si vous avez des feux par-dessus, par-dessous, chaleur tournante et tout, je ne sais pas. Vous savez probablement Ezra, non? Non?
On ne dit pas que c'est la partie la plus cuite?
Ultimement, peut-être. Certains disent comme ça. Mais en fait, ce n'est pas écrit comme ça, c'est écrit que... C'est la partie qui prend en premier, mais tu as peut-être raison que c'est la partie qui finalement est la plus cuite. Ce serait assez logique, mais... Je m'étais bien promis de regarder une fois, mais je n'ai pas regardé. Et Alors il lui a dit, alors dans le rêve il a continué la discussion, il lui a dit, mais si vous étiez tellement grand qu'il n'y avait rien dans votre vie que vous fassiez sans lui donner du sens. Parce que si même savoir comment on coupe le pain, comment on commence le pain, etc., ça aussi ça a du sens, ça veut dire que vous avez une vie dans laquelle chaque geste est un geste qui a du sens. Comment est-ce que ça se fait que vous étiez idolâtre? Comment vous avez marché dans une combine aussi idiote que l'idolâtrie? Alors il lui a dit, nous, on avait des longs manteaux, quasiment jusqu'au sol. Et avec ces lourds manteaux, qui étaient dans des tissus assez lourds, on ne pouvait pas marcher vite. Et donc, mais on se réjouissait de ne pas pouvoir marcher vite. Parce que, comme ça, on arrivait plus tard au temple. On ne pouvait pas ne pas y aller. Mais on se réjouissait du retard qu'on prenait grâce à nos manteaux. Et toi, tu aurais vécu à ce moment-là, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir plus vite. Ça veut dire que l'idolâtrie à ce moment-là, c'était un must. C'est un must. Avant Cartier, c'était un must. C'est un coup de génie. C'était la même chose que pendant un certain temps, à l'université française, vous ne pouviez pas enseigner la philo si vous n'étiez pas marxiste. Ça n'existait pas si tu n'étais pas marxiste. Ça commence même pas. Tu as droit à la parole. C'est ça un must. C'est-à-dire, on te dit, mais tu n'es pas moderne. Comme aujourd'hui, on dit à des gens, mais vous n'êtes pas moderne. Bon, aujourd'hui, il y a déjà des gens qui disent, on n'est peut-être pas obligé d'être absolument moderne. Puis on peut critiquer la modernité, tu sais, qu'est-ce que c'est exactement la modernité, est-ce qu'on est vraiment moderne ou pas. Il y a toutes sortes de discussions à ce sujet-là aujourd'hui. Mais il y avait un temps où ne pas être moderne, c'est insupportable. Donc c'est ce qu'il lui a dit. On ne pouvait pas, c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas ne pas succomber à cela. Pourquoi je vous raconte tout ça?
Oui, donc
alors c'est écrit dans Rashi que le poids de l'idolâtrie égyptienne, bien qu'ils aient pas encore été convaincus, ils ne sont pas devenus idolâtres tout de suite, bien qu'après ils le soient. Vous savez bien qu'au passage de la mer, les anges ont dit à Hachem, mais pourquoi tu sauves les Bnei Israël qui sont des idolâtres, et pourquoi tu noies les Égyptiens qui sont des idolâtres? Ceux-là et ceux-là sont idolâtres. Donc ça veut dire, même les anges à ce moment-là ne voient pas la différence. On n'en est pas là, on est 210 ans avant. Donc, Rashi rapporte ça. Ce poids-là, l'exil spirituel a commencé à ce moment-là. Puis après, Rashi dit, d'avoir à faire, ça c'est à cause de Chaim Meir, d'avoir à faire, dit Rashi, autre chose, dit, Yaakov a voulu leur dévoiler la fin des temps, comment ça se passerait à la fin des temps, et quand il a voulu le dire, la Shrina s'en est arrivée, il n'avait plus d'inspiration. En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne savait plus, mais les prophètes, ils ne disaient pas des choses s'ils ne les vivaient pas à ce moment-là. Aujourd'hui encore, les grands maîtres du Moussard, les vrais, ils ne disent pas des choses qu'ils ne vivent pas, qu'ils ne ressentent pas. On raconte de grands maîtres qui n'ont pas pu, il était prévu qu'ils donnent cours, etc., ils n'ont pas fait. Parce qu'ils avaient été troublés par un voyage, par ceci ou par cela, et qu'ils ne se sentaient pas de le dire. Ça correspondait, si tu n'es pas à cette hauteur-là, il ne s'agit pas de dire des trucs. C'est pas de meubler, c'est pas de faire une conférence. Et donc, Yaakov ne pouvait pas le dire. Et ce qu'il me semble, c'est que Des midrashim sur cette partie-là, il y en a plein. Rashi a choisi ces deux explications-là, seulement ces deux-là, et il les a mises bout à bout. Il me semble, pas obligé d'être d'accord, il me semble que quand Rashi donne deux explications, c'est pas deux explications, je te donne l'explication numéro 1 et puis la 15, parce que ça me paraît joli. Il me semble que c'est la même explication, simplement c'est deux aspects de la même explication que Rashi donne ici. Et que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas seulement que ça leur a pesé quand Yaakov n'était pas là, n'était plus là, spirituellement. Mais que même quand Yaakov était en train de mourir, ça pesait déjà. C'est-à-dire que Yaakov n'a pas pu leur donner, il n'a pas pu leur dévoiler quelque chose qui leur aurait donné de quoi supporter cet exil égyptien. S'il leur avait dévoilé le Ketz, la fin des temps, ils auraient, bon, ça va durer 200 ans. Mais bon, c'est, il faut tenir 200 ans. C'est long, mais on sait que ça finit. On sait quand ça finit, c'est une chose, c'est, on a une démarche complètement différente. Mais il fallait qu'il n'ait pas la force de résister. Parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la sortie d'Égypte joue ce rôle fondamental. C'est pas quelque chose qui est venu réparer le fait qu'on soit descendu en Égypte par accident ou pour une raison ou une autre. La sortie d'Égypte, c'était ça l'essentiel, puisque c'est ça la prise en charge par Hachem. Et la descente en Égypte, en fait, c'était le commencement de la sortie d'Égypte. On est descendu pour qu'on puisse en sortir. C'est une irida, le tzorech aliyah. C'est une descente pour pouvoir remonter. Il fallait toucher le fond pour pouvoir remonter. Si on avait réussi à tenir le coup, ben, l'exil égyptien n'aurait pas joué son rôle, puisqu'à ce moment-là, Hachem n'avait pas besoin. Il ne pouvait pas nous prendre pour fonder la confiance, puisqu'on avait tenu le coup. Il fallait qu'on soit complètement déconstruit. Vous vous souvenez, on avait vu le Rambam qui dit que en Égypte, on a tout oublié de l'enseignement d'Abraham, sauf quelques petites choses sont restées dans la tribu de Lévi. Mais tous les autres, ils ont tout oublié. Il reste plus aucune trace de l'enseignement d'Abraham. Quand on dit, il reste plus de trace. Quand ils vont recevoir la Torah, ils vont quelque part, il y aura des réminiscences. Ah oui, ça. Et ils vont faire le lien entre la Torah qu'Abraham, dont ils savaient qu'Abraham l'avait pratiquée, et la Torah qu'il aurait donnée. Mais jusque là, en Égypte même, on a tout oublié. Et même la tribu de Lévi qui sait encore des choses, elle n'est pas capable de l'enseigner. Ça, on pourrait se dire, mais pourquoi ils ne l'enseignent pas, puisqu'eux ils savent. Les autres, c'est pas audible, probablement. Parce qu'il fallait que les Bnei Israël se décomposent, littéralement. Ça, c'est pour répondre à votre question. Il n'a pas donné le quête, c'est ça l'histoire. Deuxième chose, deuxième enseignement, toujours sur ce même verset, c'est Rabbi Alexandrie. Mima she'ata mechad sheinu, vebokaran shel malchuyot, anu yodim she'emunatcha rabba legoaleinu. Rabbi Alexandrie, donc dans votre traduction, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Abba dit. On ne parle plus maintenant de Triat HaMetim. On parle de la notion de Geoula. La Geoula, c'est donc la libération ultime, c'est-à-dire les temps messianiques, si vous voulez. La sortie de tous les exils. Pratiquement, c'est la sortie de l'exil dans lequel on est aujourd'hui, du quatrième royaume, c'est ce qu'on appelle Rome. Et il dit la même chose que ce qu'on a dit avant, Il dit, étant donné que tu nous renouvelles, il va dire de quoi il s'agit ici, eh bien, ça fortifie notre émouna et ça nous permet de te faire confiance que, effectivement, tu vas nous libérer. Qu'effectivement, il y aura cette libération ultime. Alors, ce qui nous a permis de faire confiance qu'il y aura triatametim, c'est le fait que tous les matins on se réveille en quelque sorte. À nouveau. Qu'est-ce qui nous permet de faire confiance qu'il y aura ultimement la Geoula, c'est-à-dire la libération ultime? C'est Atam Khachinu Bebokran Shel Malchuyot. C'est Boker, c'est le début, comme toujours, c'est le matin, si on veut. Mais ici, c'est le matin des Malchuyot. Le matin, littéralement, les Malchuyot, les Malchuyot, ce sont littéralement, ça veut dire les royaumes. Ouais. Les royaumes, c'est les quatre royaumes, les royaumes dans lesquels nous avons été en exil et nous sommes en exil. C'est-à-dire, l'exil de Babylonie, les Mèdes et les Perses, les Grecs et aujourd'hui Rome. Rome, la chrétienté, le communisme, l'Amérique, je ne sais pas, l'italisme, je ne sais pas. L'Union soviétique d'abord. Le quatrième royaume, c'est un royaume qui prend des visages successifs, différents. Alors comment il faut entendre ici Shata mechadshinu bebokran shel malchuyot. Tu nous renouvelles lors des matins des différents royaumes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, prenez le matin de Kehuna. Dans le texte, il dit le Bokaran shel Malchuyot, shelahem boker ve'or. C'est-à-dire au moment où pour les royaumes qui nous dominent, c'est un matin, c'est la lumière, ils sont en plein essor. Ve'lanu. Et nous, au contraire, on est dans les ténèbres de la galoute, on est dans les ténèbres de l'exil. Et Akadosh Baruch Hu mechadesh otanu ou matzileinu. Mais Hachem nous renouvelle et il nous sauve. Mitachat yadam, il nous fait échapper à leur pouvoir. Oyesh lomar min mashe itzlachnu veotzetanu mishalosh galuyot arishonim. Neda Nehemana, Shaf Migalut Arvi'i, Aze, Atilata Legoaleinu. Ou alors il faut dire que, puisque tu nous as sauvés des trois Galouyot, des trois exils dans lesquels nous étions, alors on a de bonnes raisons de te faire confiance que tu nous sauveras aussi de la quatrième Galout. Alors, on va essayer de réfléchir sur la chose elle-même, mais maintenant si je remets ça en rapport avec notre verset à nous, c'est-à-dire que la nouvelle époque qui commence avec la victoire de Yaakov sur l'ange, avec cet ange qui dit voilà, c'est libère-moi, c'est renvoie-moi, c'est toi qui me renvoies. Parce que l'aube s'est levée, l'aube pointe maintenant. On a vu que c'était quelque chose qui avait à voir avec Triatametim, c'est-à-dire qu'en fait ceux qui étaient morts vont ressusciter, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Et maintenant on dit, il y a quelque chose qui a lieu avant Triatametim. Quelque chose qui est quasiment historique. Triatametim, c'est hors de l'histoire. Je vous ai dit, c'est le huitième jour. Ça correspond au Haz. La Geoula, elle est dans l'histoire. Le Mashiach, c'est un phénomène de l'histoire. C'est encore dans la période historique. C'est pas dans une période qui a rien à voir avec l'histoire. C'est pas dans un huitième jour, si vous voulez. Et donc, le matin de Kehuna, c'est un des commentateurs standards du Midrash, lui, il lit, il donne deux possibilités. Ou bien le fait que au moment où nous commençons un nouveau galout, en fait. C'est-à-dire nous sommes en exil sous de nouveaux maîtres. D'abord, les premiers maîtres, c'était donc les Babyloniens, puis ensuite les Mèdes et les Perses, puis ensuite les Grecs, et ensuite Rome. À chaque fois, tu nous as renouvelés, c'est-à-dire, bon, pour nous, c'est un moment terrible. Bon, c'est un moment de la destruction du Beth Amikdash. Le temple est détruit, le premier temple au moment de Babel, de l'exil de Babylone, le deuxième au moment de l'exil de Rome. Donc on est vraiment dans la nuit. En réalité, dans chacune de ces nuits-là, tu nous as renouvelés. C'est-à-dire, pour nous, c'est une époque où les choses ont changé. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est des époques de développement. Développement de la Torah. C'est une nouvelle époque. Pas dans Babel et la Perse, c'est la fin de la période des Nevi'im, mais c'est la période d'Ezra. D'Ezra, on nous dit que si la Torah n'avait pas déjà été donnée par Moshe Rabbeinu, elle aurait dû être donnée par Ezra, tellement il était grand. Et d'une certaine façon, Ezra a dû redonner au Bnei Israël la Torah. Puisque les Bnei Israël, dans ces 70 ans d'exil de Babel, ils ont tout oublié. Ils ne savaient même plus lire. La Gemara, elle nous avait enseigné, vous vous souvenez, dans Sanhedrin, que Ezra, il a dû enseigner la Torah en araméen au départ. Parce que l'hébreu, ça leur disait absolument rien. Et on voit bien que dans la Gemara qu'on vient de voir, la Gemara d'Ambrachot, quand on leur lit la Torah, si on ne la leur traduit pas, ils ne comprennent rien. Ils ne sont pas beaucoup mieux que nous, hein. Non plus, si on ne traduit pas, on ne comprend rien. Et ensuite, avec l'exil au moment des Grecs, cet exil, mais il y a un chidouche, il y a un renouveau, on va réinaugurer le Beth Amikdash, il y a les Hashmonaïm avec le commencement de la Torah chez Balpé, la Torah orale, le développement de la Torah orale. Et dans l'exil de Rome, ben c'est la Torah orale qui fleurit, c'est les Mishnayot, c'est Rabbi Akiva. Donc il y a un renouveau de la Torah, bien qu'on n'ait absolument pas de conditions politiques qui permettent de parler d'un vrai renouveau du peuple, mais au niveau de la Torah, c'est un renouveau à chaque fois. C'est un renouvellement complet. Donc, on peut dire, puisque à chaque fois, tu nous as donné, en quelque sorte, tu nous as renouvelé, c'est-à-dire tu nous as donné une autre façon de... Je vous avais dit précédemment que les Bnei Israël, en tout cas, les hommes en général, les Bnei Israël en particulier, ils sont des Me'alchim, ils doivent être en mouvement, une dynamique. On nous a donné une nouvelle dynamique à chaque fois. Chaque fois une nouvelle dynamique qui a permis de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, qui a permis de réinaugurer, qui a permis Hanouka, qui a permis le développement de la Torah chez Balpé, l'explosion de la Torah chez Balpé, n'est-ce pas? Tout ce qui est là, tout a été fait dans les périodes d'exil. Tout ça, ça a été écrit, sauf le Talmud Yerushalmi. On était aussi en exil d'ailleurs. C'était en Eretz Israël, mais on était aussi en exil. Tout ça, ça a été écrit en exil. À part quelques volumes du Chumash là-bas. Tout ça, ça a été écrit. Et encore, le Chumash aussi, il était né au Sinaï, il était donné en exil. On n'était pas en Eretz Israël. Il y a la Mishnah elle-même en Eretz Israël, était en hébreu. On est dans le quatrième royaume. Donc on a une. Il parle du Boker. Au départ, au début de chaque nouveau royaume, d'accord, il y a un renouvellement.
Oui, mais là, on est
toujours dans le même.
Mais on est plus renouvelé depuis.
Non, mais parce qu'on n'a pas changé de royaume.
Mais vous avez ce sentiment ?
Oui. Je pense que c'est des versions différentes.
Mais
c'est toujours le même type de problème. Pardon ? Il a une dynamique, c'est la dynamique de la Torah. C'est ça la dynamique, on n'a pas autre chose.
Qu'est-ce qu'ils ont eu, les pères, à la fin de la galoute perse et de la galoute.
Ils sont revenus, ils avaient une dynamique pour aller construire le deuxième Beth Amikdash, c'est Ezra. Et Yavan, sorti de. Au début de ce qui s'appelle la galoute de Yavan, il y a. Le noyau des Hashmonaïm, des Maccabim, qui ont renouvelé complètement le fonctionnement du Beth Amikdash, etc. Il y a eu un renouvellement, le commencement de la Torah Sheba'al Peh, encore. C'est Rabbi Shimon HaTzadik, cette époque-là. Shimon HaTzadik, c'est un contemporain d'Alexandre le Grand. C'est le commencement de l'exil grec. Et on a Shimon HaTzadik, Yaya Mishiyarek, Anshek Nestakdola. On dit dans le Pirkei Avot, il était un des survivants de cette fameuse grande assemblée de 120 maîtres, qui sont ceux qui nous ont dit comment prier, etc. C'est eux qui ont fabriqué la prière de la Ham, la Shemona Esrei, etc.
Ce que je ne vois pas, c'est
où se situe
cette dynamique.
Excusez-moi, c'est vous qui dites qu'il n'y a plus. Je dis qu'il y a la dynamique. C'est la dynamique, elle a commencé avec la Torah Sheba'al Peh. On vit de quoi ? Qu'est-ce qui nous a fait vivre jusqu'à maintenant ? Uniquement la Torah. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a rien d'autre. Pendant 2000 ans, qu'est-ce qu'on a eu ? Rien d'autre. Mais on a produit tout ça. Enfin, bien plus que ça, mais on a produit tout ça.
Dans ces cas, dans les trois premiers royaumes, il y avait des ruptures que nous n'avons plus aujourd'hui.
C'est... Oui, oui. Quand on a passé de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 4, il y avait des ruptures.
Et là,
mais on est dans le 4, alors on n'a pas. Durant le 3, il n'y a pas de rupture, durant le 2, il n'y a pas de rupture non plus. Au niveau des nouveaux problèmes qui se posaient à nous du fait que la confrontation avec d'autres civilisations. C'était probablement pour résoudre des problèmes qu'on avait à l'intérieur, alors on nous a mis les problèmes à l'extérieur pour qu'on les affronte. C'est en général comme ça que ça fonctionne. C'était les problèmes intérieurs. Je vous ai déjà dit souvent que... La guerre des Hashmonaïm, c'est une guerre civile. Vous êtes d'accord, Khan? Khan, vous êtes d'accord ?
Allô, j'avais coupé le micro, mais je suis d'accord, c'est la troisième fois que vous me le demandez, je ne suis pas sourd.
Je suis désolé, comme vous ne répondiez pas, je pensais que vous étiez sourd.
Le renouvellement par la Torah Shibéalpé, oui, je notais.
Oui.
Et bien le méconfirme.
Et bien le méconfirme aussi, ça va alors. Toi non plus, tu dors pas.
Moi j'ai le même problème que Tétane, c'est que je coupe aussi mon micro.
Oui, c'est gentil, merci. Bon, sinon, il y a des grésillements, comme vous savez. Non, mais quand on vous parle, je vérifie. C'est pour ça, comme je sais que vous allez couper les micros de temps en temps, je vérifie que vous êtes encore avec nous. Parce que bon.
Le renouvellement du monde, ça peut être aussi là, précisément les corbanotes du matin qui permettent que le monde soit reconstruit. C'est ce qu'avait expliqué Rabba, et vous savez, c'est. Mathématicien de Strasbourg que vous connaissez bien.
Oui.
Voilà.
Attendez, qu'est-ce que vous disiez? Que quoi? Que c'est les corbanotes?
Que les corbanotes du matin garantissent que le monde va recommencer, va continuer. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire le corban du Tomid.
Oui, parce que vous avez entendu ça chez Paul Weiss?
Oui.
Ah, d'accord. Mais quand vous avez entendu ça?
Oh, c'était à Paris il y a 2 ans.
Ah, d'accord. Ah, quand il était venu ici?
Oui.
Très bien. Effectivement, enfin, pas que le monde obligatoire va commencer, mais on avait expliqué que le Corban Tamid, la grande. Qu'est-ce qu'on a perdu en n'ayant pas le Beit HaMikdash? Ce qu'on a perdu, c'est que c'est justement ce Corban Tamid. Le Corban Tamid, il assure le renouvellement, c'est-à-dire on apportait le Corban Tamid le matin, et ce Corban qu'on apportait, il avait pour fonction de nettoyer les scories de la nuit, c'est-à-dire de nous fabriquer une page blanche pour la journée. Et le Corban Tamid de l'après-midi, de la fin de l'après-midi, nettoyait les scories de la journée et nous fabriquait une page blanche pour la nuit. Donc c'est une situation absolument extraordinaire, si vous voulez. Vous avez à chaque fois deux parties de la journée qui sont où il n'y a pas de scories de la partie précédente. Ce qui se passe, c'est que très souvent dans notre vie, on rate la nuit parce qu'on a mal travaillé la journée, et on travaille mal la journée parce qu'on a raté la nuit. On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant la nuit. D'une certaine façon, ce qu'on avait au Beit HaMikdash, c'était, et la nouveauté là-bas, c'est que c'était fait d'une certaine manière automatiquement. Et ce que je vous dis toujours, c'est que ce qu'on a perdu, d'une certaine façon, c'est cette automaticité. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Seulement, il faut le faire tout seul. C'est la même chose que Yom Kippour. Yom Kippour, au temps du Beit HaMikdash, c'était le Kohen Gadol qui faisait tout le travail. Aujourd'hui, chacun doit le faire pour soi. Personne ne peut le faire pour nous. Et les korbanot, évidemment, on ne peut pas les apporter, mais Chazal nous a enseigné avec le pasouk qui dit « Un shalma parim sfatenu », c'est-à-dire qu'on peut remplacer les taureaux, c'est-à-dire les corbanotes qu'on aurait dû apporter, par le travail de nos lèvres, par le travail de la bouche, par l'étude, la récitation des paragraphes, l'étude. Et donc c'est ça qui assure, en fait. Ça nous assure, si vous voulez, une possibilité d'avoir des demi-journées, si vous voulez, c'est-à-dire la partie diurne et la partie nocturne, qui ne soient pas obérées par la partie des précédentes. On peut réussir complètement sa journée et on n'est pas entravé parce que le fait, bon voilà, j'ai pas réussi spirituellement ma nuit, ou le contraire. Étudier comme il fallait le jour.
Est-ce que vous êtes en train de nous décrire en fait garde la main jusqu'à ce qu'il soit détruit par Titus. Le deuxième, Metal Dash. Et les choses sérieuses commencent à prendre, définitivement, puisque ici, l'homme, étant donné que la Shekhinah s'est distancié, et qui va devoir.
Elle est là en Galoute aussi.
Oui, en Galoute. Passer des corbanotes à la prière.
La parole. L'étude aussi, pas seulement la prière. Oui.
L'étude. Mm-hmm. Je ne sais pas, cet homme-là me paraît plus
adulte.
Plus mûr que celui qui vient faire des corbanotes et qui, automatiquement, va avoir, je dirais, une page blanche, et donc il est renouvelé presque comme à la machine à laver. Ici, ça me paraît quand même plus. Est-ce que c'est pas ça,
oui, peut-être que on peut imaginer qu'une fois qu'on aura fait le travail, on pourra le faire automatiquement, une fois qu'on a compris de quoi il s'agit. Ce sera plus automatique parce que j'y penserai, je m'investirai d'une autre manière dans ce travail qui sera fait là-bas. Peut-être qu'on peut imaginer qu'on n'a pas réussi à le faire avant. On a pris ça comme si ça marchait tout seul. Alors on dit, ben non, tu vas le faire tout seul et quand tu vas le faire toi-même. Une fois que tu auras bien compris de quoi il s'agit, que tu l'auras fait toi-même, alors on pourra te le faire faire. À ce moment-là, tu verras ce travail qui est fait, qui t'est donné en quelque sorte, d'une autre manière que ce que tu voyais avant. Parce qu'avant, tu croyais que c'était quasiment de la magie. Et maintenant, tu vois que c'est en fait un travail, là, qu'il faut que tu t'investisses dedans, là-dedans.
La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette galanteur dure autant
que... Parce qu'on n'est pas prêt. Esav, c'est le jumeau de Yaakov. Donc, si vous voulez, c'est d'une certaine manière celui qui aurait dû faire le travail avec Yaakov. Probablement que le projet d'Yitzhak Avinu, c'était que les deux travaillent ensemble. Et ce qui se passe, c'est que on a l'impression que dans toute l'histoire, les choses elles se présentent comme si elles avaient dû se faire par une personne. Ça ne marche pas, il en faut deux. Et le travail, c'est que ces deux travaillent ensemble. Il faut arriver à ce que les deux travaillent ensemble. C'est un processus comme l'expansion et contraction. Tous les moteurs fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, c'est ouvrir. On peut le dire en termes, on peut dire c'est du chesed et de la gvura. C'est Abraham d'abord et puis ensuite il sera comme il. C'est toujours ce même processus qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, il faut. On part du 1, ce 1-là, il ne tient pas le coup, quoi. Il se fractionne en deux. Et après tout le travail, c'est l'arrivée de mettre ces deux ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Qui forme une nouvelle unité. On retrouve une unité perdue, si vous parlez comme ça, primordiale. Alors, de cette manière-là, on peut dire que c'est une lutte intérieure, au sens, parce que ce n'est pas un extérieur complet. Ou si vous dites qu'il s'agit du Yetzer Hara, du penchant à faire le mal, c'est ça, Esav. Ou l'ange en question, l'ange d'Esav, c'est sûrement le penchant à faire le mal. Il est chez tout le monde là, ce penchant. Donc, du coup, ça devient une lutte intérieure. C'est ça qu'on peut entendre.
Et alors, là, on pourrait dire que le fait qu'il n'ait pas compris, que Jacob n'ait pas compris que c'était terminé, que justement, il avait ouvert une nouvelle page, ça pourrait...
Là, c'est le mieux qui est l'ennemi du bien. Il avait déjà gagné, maintenant il a voulu continuer la bataille. L'autre lui a dit, tu as gagné, c'est tout, terminé.
Mais est-ce que ça veut pas dire qu'il n'arrive pas à se séparer? Parce que justement, c'est de ça qu'on parle, c'est les corbanotes, c'est le fait de savoir couvrir quelque chose de nouveau, de couper avec le...
Oui, mais il fallait couper, et il fallait arriver à couper, et d'une certaine manière, il n'a pas coupé. Certains disent que la raison pour laquelle il est blessé... Il n'a pas été blessé durant la bataille. Il a été blessé dans la partie... Parce qu'il ne l'a pas laissé partir tout de suite. À ce moment-là, il l'a blessé.
Oui, mais comment on peut traduire cette blessure?
Ça dépend, alors. Si vous dites... Non, la blessure, elle est claire. La blessure, est, il l'a déséquilibré. C'est-à-dire qu'il va... Durant le galout, ce ne sera pas une promenade de santé, quoi. C'est un truc où on marche avec plein de handicaps, en fait. On est sûr qu'on va gagner, mais en attendant, il y a des handicaps. Mais non, vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas laissé partir? Est-ce que c'est parce que... D'après cette explication-là, il probablement... Il a voulu asseoir sa victoire, comme si vous voulez. Il a voulu parfaire sa victoire. C'est pour ça que je dis, c'est le mieux qui est l'ennemi du bien ici. Peut-être d'ailleurs que il part pas pour rien. Quand il lui laisse moi partir et le Midrash dit qu'il va dire Shira, qu'il doit aller chanter cet ange, pour montrer qu'il a fini son travail. Son travail, ce n'était pas de gagner. Le travail, c'était de lutter contre Yaakov. Mais il fallait peut-être laisser le Yetzera, on ne peut pas l'éradiquer complètement. Chazal ont voulu éradiquer complètement le Yetzara, il n'y avait plus une poule qui pondait un œuf. C'était terminé. Oui, vous avez probablement raison, visiblement, ça c'est sûr que vous avez raison qu'on n'y est pas encore, mais maintenant, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire exactement, c'est ça qui n'est pas très clair. On ne soit pas prêt, mais en quoi est-ce qu'on n'est pas prêt? Qu'est-ce qui manque en réalité? On peut dire qu'il manque tellement de choses, mais qu'est-ce qui manque essentiellement? Marel présente en disant que il faut une conjonction d'une génération qui soit apte à recevoir le Mashiach et d'un personnage qui puisse être le Mashiach. Et la Gemara dit, elle donne toute une liste de personnages qui auraient pu être le Mashiach, mais la génération ne s'y prêtait pas. Et puis l'autre situation où la génération était prête, mais il n'y avait personne. Il n'y a pas de personne. Ce qui nous a manqué, c'est ça. Ce qui manque, c'est qu'il y ait cette conjonction, qui est les deux en même temps. Et à un moment donné, on avait presque ça. Bikshu lasot Hizkiyahu Mashiach. Le roi Hizkiyahu, c'était presque ça. La génération était là. Lui, il était presque Mashiach. Bon, vous savez. Après, la direction bicéphale de Rabbi Akiva et Bar Kokhba, visiblement, Rabbi Akiva, il pensait que c'était jouable. Donc, ça veut dire que la génération était adéquate. On avait le bonhomme, presque le bonhomme. Le bonhomme, à condition qu'il se laisse encadrer par Rabbi Akiva. Il est, lui, le rôle de roi, etc., mais qu'il obéisse au plus grand maître qu'on ait jamais eu. Ça n'a pas marché, il a eu la grosse tête, ça n'a pas marché. Je ne sais pas. Peut-être la génération est prête et c'est vous qui n'êtes pas prêt pour jouer le rôle du Mashiach. On va s'arrêter là.
Si. Bonsoir, Coach Chavez.
Chavez. Peut-être que Mashiach sera strasbourgeois. Qu'est-ce que vous pensez, Khan?
J'étais perplexe en me disant que grand un, le malheur, c'est le malheur des sages. Et deux, dans deux, il va lire la Shira. C'est pas simple.
Et le malach des sages, lui aussi, c'est un malach. Il est aussi envoyé par Hachem.
Assurément.
Donc, qui doivent dire Shira. La Shira, c'est la Shira que les malachim disent quand ils ont fini leur travail. Donc, quand il lui dit Allah Shachar, il dit mon travail, c'était pendant la nuit. La nuit est terminée. Laisse-moi partir. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas gagné, c'était, à la limite, c'est bien, j'ai pas gagné. Ça veut dire que toi, tu as gagné, et c'est tout, j'ai fini mon job. Qu'est-ce qui va pas? Vous avez un peu mal à la tête?
Non, c'est disons que là, à travers le malheur de Sav, il y a quelque part, et Sav quand même,
ouais, mais parce que
donc moi, l'impossible shoot foot que vous évoquiez dans les temps comment l'arrivée de Mashiach et peut-être dans cette bipolarité,
justement, moi j'ai un peu je sais pas, la tête de Sav, elle est quand même dans Maharat HaMakpela.
Oui, c'est ce que j'entendais, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que ça passe par la concordance avec les sages, à un moment donné.
On voit que Jacob, il a du mal. Hazal lui en font le reproche quand même, il n'a quand même pas donné Dina.
Oui, il est sorti du tonneau, il était tout caché. Choses
qui
nous
échappent. Oui. Ok, good Chavez.
Good Chavez.